Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime.
Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime. Aujourd'hui, on vous retrouve pour un épisode spécial d'actualité. Et c'est un épisode vraiment, vraiment lourd à entendre. Imaginez ça. Vous êtes dans un mariage que vous estimez heureux, sécuritaire, vous aimez votre mari, vous lui portez toute votre confiance. Vous portez ses enfants, vous vivez heureux jusqu'au jour où, vous commencez à vous sentir étrange. Perte de mémoire, épisode de confusion totale, douleur vaginale inexplicable, vous passez littéralement des dizaines de tests pour comprendre ce qui vous arrive, mais rien. Les médecins trouvent rien. Vous commencez à vous inquiéter naturellement, vous commencez à penser que vous êtes possiblement en train de développer la maladie d'Alzheimer. Votre mari, mais surtout vos enfants, vous soutiennent au travers de ces 10 années éprouvantes remplies de questionnements auxquels vous êtes juste incapable d'obtenir des réponses. Malgré tout, la vie continue. Vous résidez dans un petit village, vous croisez souvent les mêmes visages. C'est réconfortant. Il y a cet homme que vous croisez souvent à la boulangerie. Il vous sourit. Vous lui souriez aussi. Il a l'air gentil. Un sombre jour de 2020, vous êtes en train de vaquer à vos occupations. Votre téléphone sonne. On vous demande de vous présenter au poste de police. Êtes-vous l'épouse de Dominique Pellicot? Ouais, c'est un chic type. Un super mec. Mes sources pour l'épisode d'actualité aujourd'hui sont le Journal de Montréal, La Presse, Le Devoir, France Télévisions, Le Monde, France Info, France Bleu et les témoignages diffusés dans les différentes chaînes de nouvelles au Québec telles que TVA Nouvelles, Radio-Canada et Cube. Si vous connaissez ou si vous êtes victime d'actes d'abus sexuels, n'hésitez pas à vous rendre dans la biographie de cet épisode ou sur chacune de nos plateformes afin d'accéder à des liens pour vous accompagner. Vous n'êtes pas seul. Si vous êtes témoin d'une scène dans laquelle vous soupçonnez quelconque forme d'abus, n'hésitez jamais à contacter les services d'urgence ou à intervenir. Notez ici que je vais utiliser le nom de mariée de Gisèle parce que c'est ainsi qu'elle veut être reconnue dans les médias, mais je vais y revenir plus tard. Et évidemment, on se doit d'émettre un trauma-avertissement. Cet épisode, bien qu'il soit assez court, va fesser dans le dash, comme on dit en québécois, parce que cet épisode traite de sujets extrêmement choquants et vraiment délicats. Depuis le début de la semaine, le monde entier retient son souffle et tous les yeux sont rivés vers la France pour un procès qui va marquer l'histoire et qui marque certainement l'imaginaire. On est en 2020 lorsque le monde de Gisèle Pellicot va s'écrouler. Les policiers vont réclamer sa présence au poste de police et vont l'informer qu'ils détiennent des vidéos d'elle qui ont été retrouvées dans le téléphone de son mari. Son mari qui accompagne son quotidien depuis les 50 dernières années. Et ce mari-là, cet homme monstrueux-là, s'appelle Dominique Pellicot. Dans les dites vidéos, Gisèle est complètement inerte. Elle se qualifie elle-même d'une poupée de chiffon. Et sur les vidéos, elle se fait agresser sexuellement par plusieurs hommes différents. Il n'y a aucun doute que Gisèle n'était pas consciente des événements qui étaient en train de prendre place lorsqu'elle était dans tel état, lorsqu'elle était en train de se faire filmer. Et elle qui se demandait depuis les 10 dernières années d'où venaient ses pertes de mémoire et ses douleurs incongrues, elle a tout de suite compris que Dominique Pellicot la droguait afin de la faire violer par des dizaines d'hommes. Dans les vidéos, on voit une Gisèle complètement inconsciente qui même des fois gémit de douleur durant les actes d'agression sexuelle qu'elle a elle-même qualifiés de barbares. Ouvre la citation. Je me demande comment j'ai pu tenir, les vidéos sont toutes plus atroces les unes que les autres. Fin de la citation. Faut savoir qu'à la base, Dominique Pellicot, il a été interpellé alors qu'il s'est fait prendre la main dans le sac, ou plutôt, les yeux au très, très, très mauvais endroit. Il s'est fait voir alors qu'il était en train de photographier en dessous des jupes des passantes dans un centre commercial. Évidemment, il s'est fait arrêter, les policiers ont perquisitionné son téléphone cellulaire et alors qu'il cherchait dans le dit téléphone cellulaire, c'est là qu'ils ont découvert les clichés de sa femme complètement inerte et les vidéos. Au total, il est estimé que Gisèle, elle a été agressée par un total de 72 hommes différents. Aujourd'hui, il y a seulement 51 d'entre eux qui se retrouvent devant la justice. Quand un médicament est utilisé comme une arme, comme dans cette horrible affaire, ça s'appelle de la soumission chimique. Tel qu'inscrit et décrit sur le site de l'association M'endors pas, ouvre la citation, la soumission chimique, c'est le fait de droguer une personne à son insu pour abuser d'elle sans qu'elle puisse réagir ou parfois même en avoir conscience. Fin de la citation. Pendant littéralement 10 ans, le mari de Gisèle, celui qui a promis de l'accompagner dans la maladie, dans la mort, a lui-même généré une genre de maladie alors qu'il le droguait continuellement pour l'offrir à 72 hommes différents. Et parmi ces hommes-là, il y a des hommes qui sont considérés normaux. Il y a des journalistes, des pompiers, des artisans. Il y a même un ex-policier, il y a un électricien. Tous ces hommes-là sont âgés entre 26 et 74 ans. C'est vraiment des gars dits normaux, avec une vie dite normale. Sauf que, ces gars-là, ils sautaient sur l'occasion d'abuser une femme complètement inconsciente et inerte au vu et au su de son mari. D'ailleurs, il y a même un des accusés, un des violeurs, qui est l'homme dont on a fait mention qu'elle croisait à la boulangerie. Elle saluait littéralement l'un de ses abuseurs sans savoir que, il profitait d'elle lorsqu'elle était droguée et complètement inerte. Il y a même un autre de ces accusés-là qui comparait dans un cas similaire parce que, il a soumis chimiquement sa propre femme. Parlant d'autres victimes de la soumission chimique, le Gisèle, la tête haute, à la barre, elle a dit le 5 septembre dernier dans une citation qui me donnait des frissons partout. « J'ai tenu 4 ans pour ça, pour que si un jour une femme s'élève sans se souvenir de la veille, elle se rappelle de mon témoignage. » Fin de la citation. Sincèrement, la famille de Gisèle, c'est vraiment l'incarnation même de la résilience. La fille de Gisèle, Caroline Darian, elle est assez vocale depuis le début de la médiation de l'affaire. Elle a fait des entrevues, elle s'est même prononcée à la barre et elle a aussi décidé de s'impliquer de manière permanente pour toutes les victimes de la soumission chimique. En plus d'avoir publié le livre « Et je cesse de t'appeler papa » dans lequel elle raconte son horrible histoire, elle va avoir fondé l'association M'endors pas. Et évidemment, le lien est disponible dans la description de cet épisode et dans la description, dans la biographie de tous nos réseaux sociaux et tous nos liens. La mission de Caroline est assez simple. Elle veut sensibiliser, oui, la population, mais aussi le corps policier, le système de justice, tous les employés du système de santé. Elle estime que tous les professionnels doivent savoir reconnaître les signaux de la soumission chimique parce que, c'est un sujet dont on parle malheureusement peu et les victimes sont beaucoup plus nombreuses qu'on peut le penser de prime abord. On va le répéter encore une fois, si vous voyez quelconque scène louche, si jamais vous êtes en présence de quelqu'un qui semble être dépourvu de ses moyens, en perte totale d'inhibition et surtout qui est dirigé par quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à poser des questions, à appeler les services d'urgence. On vous demandera jamais, en fait, on vous conseille de ne jamais mettre votre propre vie en danger, mais n'hésitez jamais à aider à en sauver une autre. Sincèrement, je vous promets que les policiers préfèrent avoir un appel d'une fausse alerte plutôt que d'éviter d'être alerté et d'intervenir et de potentiellement sauver une vie. De retour à Caroline, il y a plusieurs vidéos qui sont disponibles sur toutes les plateformes comme TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dans lesquelles on voit justement Caroline en train de prendre la parole. Et sincèrement, à chaque fois, c'est juste complètement poignant, troublant, choquant. J'ai pas assez de synonymes dans mon dictionnaire pour décrire à quel point c'est horrible qu'est-ce qu'elle raconte. Elle explique aussi, évidemment, qu'elle, c'est devenue une victime par l'entremise de ce qu'elle a appris ce jour fatidique de 2020. On le dit tout le temps, mais les victimes d'un acte criminel sont beaucoup, beaucoup plus nombreuses qu'on peut le penser. Mais outre le fait que Caroline est devenue victime par procuration à cause de sa mère, elle aussi, elle a probablement été une victime directe de son père parce qu'on a appris cette semaine que dans le téléphone de cet homme crapuleux, il y a aussi des photographies de Caroline qui ont été retrouvées. Elle était en position fœtale, complètement nue et endormie. On ne sait pas si c'était un sommeil paisible ou si elle aussi, elle a été soumise chimiquement pour que ces photos-là puissent être prise. Malheureusement, elle est d'avis qu'il y a de grandes chances qu'elle aussi, elle ait été victime de celui que maintenant, elle refuse catégoriquement d'identifier comme son père. Et aussi, dans plusieurs témoignages dont je vous ai fait mention là, sur YouTube, TikTok et toutes ces plateformes-là, elle parle de Dominique avec un tel détachement que c'en est vraiment inspirant. Là. C'est sérieux, la force et la résilience de cette famille. On n'a juste pas de mots pour le décrire. Malheureusement, la fille de Dominique, c'est pas la seule personne, outre sa femme, dont on a retrouvé des photos dans son téléphone. Les autorités ont également retrouvé des photos de Céline, qui est l'épouse de son propre fils, David. Et ils ont retrouvé également des photos de l'ex-femme de son autre fils, Florian. Les deux ont été photographiés à leur insu, complètement nus. Et la même question se pose, est-ce qu'elles étaient complètement endormies juste normalement, ou est-ce qu'elles se sont faites endormir? En France, les victimes de viol ont la possibilité de suivre leur procès sous huis clos pour éviter toutes les répercussions possibles, pour éviter que les détails soient partagés au grand public. Et bien évidemment, Gisèle avait la possibilité que son procès se tienne en huis clos, ce qui veut aussi dire que tous les détails qui sont mentionnés dans ce court épisode et qui ont été partagés depuis les derniers jours, il n'y aurait jamais été partagé au grand public et on n'aurait jamais appris la nature des événements qui ont pris place entre 2011 et 2020. Gisèle, remplie d'un courage, encore une fois qu'on n'a pas de mots pour décrire, a catégoriquement refusé le huis clos pour, ouvre la citation, que la honte change de camp. Fin de la citation. J'ai des frissons en pensant à la force de cette dame. J'ai juste pas de mots pour décrire à quel point c'est inspirant. Puis bref, je pense qu'on est tous ensemble là-dedans pour se dire qu'il y a pas de mots pour décrire l'horreur dont elle a été victime et de voir qu'elle a le courage de parler haut et fort devant la planète entière. C'est juste vraiment touchant et voilà, c'est ça. On n'a juste pas d'autres mots à dire que bravo à cette dame et à cette force incroyable. Justement, parlant de cette force incroyable, j'ai mentionné plus tôt que Gisèle, elle a aussi demandé à être reconnue sous Gisèle Pellicot dans le cadre du procès parce que, ben oui, elle est en instance de divorce, évidemment, et elle a changé de nom, mais elle a quand même tenu à garder son nom de mariée dans les médias pour que tout le pays entende sa voix. C'est exactement l'explication qu'elle a donnée aux médias, mais elle se rendait pas compte qu'en fait, son histoire allait faire bruit dans le monde entier et qu'elle allait plutôt se faire entendre par la planète entière. En parlant de son état d'esprit suite à tout ce qui s'est produit, elle a dit, ouvre la citation, « La façade est solide, mais l'intérieur est un champ de ruines. » Fin de la citation. Caroline, sa fille, dans une entrevue, elle a mentionné que ben, pour la famille, le but premier était, oui, de faire connaître l'affaire, mais aussi de faire reconnaître la réalité de la soumission chimique. Et comme Gisèle l'a brillamment mentionné, elle voulait, la famille, faire porter le poids de la honte au réel criminel qui est cet horrible Dominique Pellicot. Justement, parlant de cet homme tordu, il est considéré comme l'un des pires sadiques sexuels depuis les 20 dernières années. Le procès, comme je l'ai dit, a fait bruit dans le monde entier. Il est déjà catégorisé comme étant un procès historique. Et c'est une Caroline émotive, mais avec la tête toujours très haute, qui a souligné combien la famille était fière du bruit qu'a fait l'affaire. À Crime et Cocktail, et je pense pour tous les gens qui écoutent, on pense que ces personnes devraient surtout être fières de leur courage d'avoir parlé, d'avoir partagé leur histoire et de continuer de le faire dans le cadre du procès. Justement, comme c'est un procès qui est en cours, c'est un épisode qu'on va devoir terminer sous cette note. On compte vous offrir des mises à jour. Abonnez-vous à tous nos réseaux sociaux parce que c'est possible qu'on fasse un format plus TikTok, un Reel, une vidéo. Mais dans tous les cas, c'est certain qu'on ne va pas arrêter de suivre cette affaire avec vous. Justement, parlant cette affaire, on estime que Gisèle, elle a subi plus de 200 viols dans les 10 dernières années. Et parmi eux, ben, il y a peu de ces abuseurs qui ont porté des protections, en fait, qui se sont protégés. Mais dans sa malchance, Gisèle a eu un peu de chance parce que, ben, elle n'a pas attrapé aucune maladie suite à ses agressions barbares. Mais je veux juste souligner que Gisèle, elle a été donnée par son mari à 72 hommes. Elle s'est faite violer plus de 200 fois. Elle a passé 10 années à se faire droguer et à ne pas comprendre pourquoi elle avait des pertes de mémoire et des douleurs. Et elle a passé 50 années mariée à un vrai monstre. L'histoire de Gisèle, c'est une histoire de trahison comme sérieusement, on en entend peu dans une vie et c'est vraiment une histoire digne des pires films de Hollywood. La notion du consentement, c'est quelque chose dont on a vraiment beaucoup entendu parler dans les dernières années, notamment avec l'émergence du mouvement Moi aussi et de toutes les vagues de dénonciations qui ont suivi. Les lois entourant le viol, est-ce qu'elles devraient ajouter une clause face à la notion du consentement? Il y a plusieurs qui estiment que oui, et ben le cas Gisèle Pélicot ramène cette question au goût du jour. Est-ce que ce procès historique sera celui qui finalement va changer la donne pour les lois françaises? Il y a plusieurs médias qui estiment que peut-être que oui. Donc voilà, on ne peut qu'attendre la suite des événements pour voir la tournure justement des événements, pour voir quelle sera l'issue de ce procès historique. On vous remercie d'avoir été là pour ce court épisode d'actualité. On veut juste rementionner qu'on a laissé les liens de la page de l'association M'endort pas. Si jamais les moyens vous le permettent, n'hésitez pas à aller faire un don ou juste le partager. C'est certain que ça peut toujours aider. Un gros merci d'avoir été là. On se retrouve tout bientôt. D'ici là, on peut juste vous encourager à suivre l'affaire, que ce soit via Crime et Cocktail ou via n'importe quel autre média. À tout bientôt. Cheers!
Shing shing.